Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, et à partir du verset 35. Je profite pour saluer nos amis qui sont derrière leurs écrans sur Internet, que Dieu les bénisse richement toutes les semaines, et semaine après semaine, nous avons des hommes, des femmes, des gens qui viennent nous entendre au travers de ces messages que nous délivrons, que nous partageons ici à l'église Paris-Bastille, alors que Dieu les bénisse et nous voulons avoir aussi une pensée pour eux. Voilà, dans Matthieu, chapitre 9, verset 35, Jésus dit ceci: Jésus parcourant toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Je répète, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le titre de mon message ce matin est le suivant, c'est « À toi de saisir la guérison ». Et c'est vrai que Jésus, c'est un Jésus qui sauve. Je crois que beaucoup d'entre nous ont pu expérimenter ce salut dans leur vie. Beaucoup ont pu vraiment expérimenter le pardon de Dieu dans leur cœur. Ils sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière spirituelle. Mais il nous est signalé dans ce passage quelque chose d'extraordinaire, en plus de la bonne nouvelle qui est prêchée, dit prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je crois que les miracles ne sont pas passés. Je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez cela ? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». C'est-à-dire que si Jésus il est le même aujourd'hui, ce qu'il faisait hier, ce qu'il faisait à ce moment-là dans Matthieu 9, 35, il est capable de le faire encore ce matin, dans ce lieu, dans cette vie. Je crois aussi que les miracles sont là pour répondre au peuple de Dieu. Pas seulement des personnes nouvelles qui viennent nous entendre et qui viennent entendre la parole de Dieu. Moi, pour les premières fois où je suis venu entendre la parole de Dieu, Dieu est venu me guérir, mon corps. Et j'ai réalisé au travers de cette guérison du corps que Jésus était vivant. Mais je crois aussi que la guérison divine est pour le peuple de Dieu. Que la guérison divine est pour l'Église de Christ. Saint Augustin a dit « Je ne serai pas chrétien sans les miracles ». Parce que les miracles, il a pu les goûter, il a pu les expérimenter, il a pu le saisir dans sa vie. Et je voudrais juste faire un sondage très rapidement comme ça. Qui était au bénéfice du miracle de Dieu dans sa vie chrétienne ? Vous puissiez lever votre main. Vous imaginez, le trois quarts de l'auditoire a été au bénéfice du miracle de Dieu dans sa vie. Parce que Jésus, il est le même, il n'a pas changé. Jésus est capable de faire des choses extraordinaires. Alors, de grâce, ne fixez jamais des limites à ce que Dieu est capable de faire. Bien souvent, nous avons limité Dieu dans un bocal, selon notre pensée, notre façon de voir les choses. On l'a limité par rapport à nos possibilités. Quelle erreur ! Combien de fois nous avons raté la bénédiction de Dieu à cause de cela ? À la croix, Jésus a déclaré ceci, et vous savez, c'est une phrase qui, une courte phrase, mais qui a une portée éternelle. Il a dit à la croix du calvaire, tout est accompli. C'est-à-dire que si tout est accompli, c'est qu'il a tout fait. Il a tout réglé à la croix. C'est comme si vous faisiez des courses dans un supermarché et que vous arrivez à la caisse et la caissière vous dit, écoutez, désolé, mais quelqu'un est passé, a déjà payé pour vous. C'est-à-dire que Jésus est passé par là. Il est passé et il a payé à la caisse pour vous. Tout a été accompli à la croix du calvaire. Tout a été réglé sur cette croix. Réglé, je dirais, ta vie, réglé tes problèmes, réglé ta situation. Réglé, je dirais peut-être, la maladie qui est là dans ton cœur. Tout a été accompli. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais attirer votre attention au travers de différents personnage dans la parole de Dieu, et particulièrement dans Marc, au chapitre 3 et au verset 1er, on pourrait peut-être faire cette lecture dans Marc chapitre 3, verset 1, il nous a parlé de cet homme à la main sèche, quelqu'un qui souffrait, je dirais, de ce problème. Il dit dans Marc chapitre 3, verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il lui dit, « Est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Cet homme à la main sèche. La parole de Dieu nous dit qu'il entra dans un lieu de culte, de synagogue. Jésus était là, dans ce lieu. Et dans ce lieu, il y avait plein de religieux. La parole de Dieu nous le dit au verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Ils observaient Jésus. C'est-à-dire que dans cette salle, il y avait un accueil tendu. Il y avait une situation contraire. Il y avait un malaise. Ça vous est jamais arrivé de vous retrouver dans un lieu et quand vous avez commencé à prononcer le nom de Jésus, sentir un malaise autour de vous? L'impression que le fait d'avoir dit Jésus, c'était une insulte pour les gens. Ça dérange l'évangile. Et quand Jésus est passé dans cette synagogue, alors qu'il était en train de parler avec cet homme à la main sèche, il y avait comme un conflit, un combat. Des hommes étaient en train de regarder avec méchanceté, avec haine. C'était le jour de sabbat. C'est-à-dire, c'était interdit d'opérer des miracles ce jour-là. La tradition, la tradition. Combien la religion a tué tant de gens? Combien la religion a séparé des gens de la personne de Jésus-Christ? De toute façon, qui a tué Jésus à la croix du calvaire, dites-moi? C'est vrai que les Romains avaient l'arme, mais qui a influencé le peuple? C'était les religieux de l'époque. Parce que la religion est là, et quand Jésus passe au milieu de ces religieux, il dérange les cœurs, il dérange les consciences. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il cherchait à accuser Jésus. Parce que comme je viens de le dire, Jésus dérange. Jésus bouscule, il remue les consciences. Alors, bien sûr, c'était des circonstances humaines peu favorables au miracle. Vous comprenez bien que dans une synagogue, alors que tout le monde était contre Jésus, il y avait un contexte dur, un contexte difficile, et peut-être c'est l'impression que tu ressens, toi, ce matin. Tu te dis, c'est pas le bon moment. Tu n'arrives pas à imaginer que Jésus pourrait agir maintenant, au culte, maintenant, ce matin même. Tu n'arrives pas à imaginer que le Seigneur est capable de pouvoir faire un miracle dans ta vie. Tu te dis, mais le contexte est difficile dans mon foyer. Même dans ma vie spirituelle, ça ne va pas. Même dans ma situation spirituelle, ça ne tourne pas rond. Il y a tellement de temps que je n'arrive plus à lire la Bible comme je voudrais. Il y a tellement de temps que je n'arrive plus à rentrer en communion avec Dieu. Je prie, mais c'est comme si le ciel, le plafond était là, je veux dire, juste au-dessus de moi. Je ne sens pas quelque chose se dégager au-dessus de ma tête. C'est difficile. Vous savez, par rapport à ça, un jour, une personne est venue, elle a rendu témoignage parce que Dieu l'avait guérie de manière miraculeuse. Et puis sur l'estrade, elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis elle n'arrivait pas à exprimer son sentiment. Et elle disait, vous savez, frères et sœurs, et avec ses mots, elle essayait d'exprimer alors qu'elle pleurait entre deux mots. Elle disait, vous savez, frères et sœurs, c'est tout par grâce, je suis guéri aujourd'hui. Et les gens ne comprenaient pas, disaient, mais c'est par grâce. Et puis les gens ne comprenaient pas. Elle dit, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait presque un mois et demi que je ne prie plus, que je n'arrive plus à lire la Bible. Parce que dans mon cœur, je suis cassé. Parce que je suis là et je suis comme écrasé par rapport à cette maladie. Et voilà que Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu est venu pour me guérir dans mon corps. Et j'ai réalisé que finalement, ce n'était pas par mes mérites que j'ai eu cette guérison divine, mais c'était par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, parce qu'il avait tout accompli à la croix du calvaire. Alléluia. Comprenez bien cela. Tout simplement, entre parenthèses, je voulais dire quand même, continuez à lire, à prier. À lire la Bible, parce que c'est indispensable, c'est vital pour notre nourriture spirituelle. Mais juste pour vous dire par là qu'on ne mérite rien. Et peut-être que tu te retrouves dans ce contexte en disant, mais pour moi c'est difficile, je ne suis pas prêt, je ne suis pas disposé. Tu attends peut-être même une circonstance favorable. Pire, tu as peut-être même peur de la guérison. Il y a des gens qui ont peur de la guérison. Parce que ça fait des années qu'ils sont comme ça. Ils se disent, mais si ça change du jour au lendemain, qu'est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer dans ma vie? J'ai pris le pli, je me suis organisé en fonction de mon handicap. Il y a tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, si tout est bouleversé, comment ça va se passer dans mon foyer, dans ma famille, auprès des enfants, de mes proches? Et peut-être que tu as peur aussi de cette guérison divine dans ta vie. Alors tu te retrouves dans un contexte peu favorable, certes, mais lui aussi était dans un contexte peu favorable. Lui aussi était dans une situation difficile à vivre. Mais pour Jésus, les circonstances négatives ne sont pas des problèmes. Je dirais, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il est dit dans ce verset 5, on l'a lu tout à l'heure, « Alors, promenant les regards sur eux avec indignation et même en affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. » Il étendit sa main et il fut guéri. Cet homme ne s'est pas retiré en disant, « Mais Jésus, tu penses qu'il faut le faire ? Regarde autour de nous, personne ne nous aime. Regarde l'ambiance, c'est difficile, c'est dur. » Il ne s'est pas posé cette question, cet homme. Jésus a dit, « Étends ta main. » Et cet homme a étendu sa main. Alors je voudrais vous dire ce matin, à toi de saisir la guérison. À toi de faire ce pas de foi ce matin. Malgré peut-être les circonstances difficiles dans ta vie. Malgré que peut-être tu as eu une semaine dure, éprouvante, peut-être tu t'es levé ce matin avec une situation particulière et tu ne t'attendais pas à ce message. Et peut-être que pour toi, tu te le prends plein de figure, comme quelque chose qui est trop dur à saisir. Et comme cet homme, il aurait pu dire la même chose, mais il n'a pas fait. Il a obéi à Jésus-Christ. Il a étendu sa main. Et sa main était guérie. Deuxième personnage dans la parole de Dieu. C'est dans Marc au chapitre 5, verset 25. Jésus guérit une femme à la perte de sang. Alors vous savez, cette femme à la perte de sang, on le connaît en long, en large, on l'a souvent abordé dans des réunions d'évangélisation. Mais cette femme avait beaucoup souffert moralement, psychiquement. Cette femme, elle a encaissé des coups tout au long de sa vie. Et vous savez, quand on encaisse des coups, moralement, ça laisse des traces indélébiles. Ça nous casse. Vous savez, cette femme, elle était comme piétinée dans son esprit, piétinée dans son cœur. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement piétinés que même à la limite, la guérison de leur corps, c'est secondaire. J'ai connu quelqu'un qui, pour elle, la guérison du corps passait en second parce que dans son cœur, elle était tellement piétinée. Dans sa vie, elle a tellement été, je dirais, troublée, bousculée, laminée, écrasée. Et cette femme s'est retrouvée dans cette situation. Et puis, elle avait dépensé toutes ses économies. Elle était ruinée. Elle était dans des dettes pas possibles. Elle a dû peut-être probablement faire des crédits. Elle s'est peut-être retrouvée dans une situation banqueroute, je dirais familiale. Elle s'est retrouvée dans cet état vraiment pitoyable et sa maladie allait en empirant en plus. C'est-à-dire que plus ça allait dans les mois et dans les années, et plus ça empirait puisque la parole de Dieu nous dit depuis 12 ans elle était comme ça. Alors je voudrais vous poser une question ce matin. Elle, ça fait 12 ans et toi, depuis combien de temps tu es dans cet état ? Depuis combien de temps, mon ami, tu es dans cette situation de souffrance? Cette souffrance physique t'a amené à un tel point aujourd'hui que même moralement, psychiquement, tu es cassé. Ça t'a amené, je dirais, à une situation où tu es complètement, je dirais, brisé. Tu as été comme laminé au plus profond de ton cœur. Les années t'ont cassé. Tu es arrivé dans une situation pour toi de non-retour, humainement parlant. Où il y a eu quelque chose qui était là. Mais pour Jésus, le facteur temps n'est pas un problème. La parole de Dieu nous parle de cet homme à la piscine de Bethesda. La parole de Dieu nous dit que depuis 38 ans, il était au bord de la piscine. 38 ans à attendre le miracle. Pendant 38 ans, il a vu l'eau bouger. À chaque fois que l'eau bougeait, quelqu'un qui plongeait dans cette piscine, le premier était guéri. Il a dû voir des dizaines de miracles. Pourtant, Jésus avait tout accompli, mais lui, il s'est retrouvé là, bougé, bloqué, je dirais, devant une situation, devant une piscine qui bougeait, mais que lui était privé de cette bénédiction. 38 ans de souffrance. 38 ans pour avoir des gens bénis alors que lui, il était là, cloué, allongé à terre. 38 ans, je dirais, de voir, je dirais, la grâce de Dieu autour de lui, mais lui ne pas en bénéficier. Comme cette femme, depuis 12 ans, elle était atteinte de cette perte de sang. Et la parole de Dieu nous dit au verset 6 de Jean 5, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» C'est quand même étonnant, hein, comme Jésus, des fois, comment il procède. C'est quand même étonnant Non, mais c'est évident. Quand pendant 38 ans, vous êtes au bord d'une piscine et que vous êtes là, lassé, fatigué, vous n'en pouvez plus. À la limite, on vous passe à côté, puis on ne fait même plus cas de vous, et c'est terminé, c'est comme ça, c'est la vie. On laisse passer la vie, et vous, avec vos souffrances, vous gardez tout ça à l'intérieur. Alors, vous comprenez bien que peut-être cette personne était fatiguée de sa vie, comme tu l'es peut-être ce matin. Et c'est pour cela que Jésus te pose la question, veux-tu être guéri maintenant? Ou est-ce que tu as cessé cet espoir de guérison dans ta vie? Parce que tout est là maintenant. Est-ce que tu es bloqué par rapport à ce temps? Est-ce que tu te dis, ça fait trop longtemps, maintenant ça suffit, c'est plus possible. Ça fait trop longtemps, c'est trop tard. Cet homme qui était là bloqué pendant 38 ans aurait pu dire à Jésus, oh Jésus, non, tu peux continuer ton chemin. Depuis le temps que je suis comme ça, maintenant je vais finir ma vie dans cet état. Mais ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le facteur temps n'est pas un problème pour Christ. N'est pas un problème pour le Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, il te dit, à toi de saisir la guérison. Ne regarde pas, comme cet homme à la main sèche, les circonstances qui sont défavorables. Ne regarde pas non plus, comme cette femme à la perte de sang, les années qui ont duré et qui ont, je dirais, qui ont été des années de souffrance, de déchirure dans ta vie, pour te dire, c'est terminé, c'est plus possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible nous dit que si tu crois, vous connaissez la suite, tu verras la gloire de Dieu, parce que tout a été accompli. Et je reviens à cette phrase, tout a été accompli. Et c'est pour cela que ce texte est formidable. Regardez l'exemple de Lazare, la résurrection de Lazare, 3 jours. Déjà, quand quelqu'un est mort pendant une demi-heure, on se dit, mais alors maintenant, plus de possibilités, impossible de revenir à la vie, c'est trop tard, de toute manière, toutes les cellules sont brisées, cassées, détruites, décomposées, tout ce que vous voulez. Au bout d'une demi-heure, mort, ben voilà, c'est terminé. Quand on combat, quand on lutte, alors que quelqu'un est à la mort depuis une dizaine de minutes, c'est le temps limite pour récupérer quelqu'un. Alors imaginez 3 jours. Alors je vais vous dire une chose, si Dieu peut ressusciter les morts, alors il peut tout faire. Si Dieu capable de ressusciter les morts, alors il est capable de pouvoir agir ce matin dans ta vie. Je voudrais provoquer dans votre cœur ce matin vraiment cette foi, cette dynamique de foi. Cette foi qui va déclencher, qui va provoquer chez vous le miraculeux dans votre cœur. À toi de le saisir. À toi de prendre les promesses de Dieu, je dirais, comme acquises pour ta vie, pour ton cœur. Alors, revenons à la femme à la perte de sang. Parce que finalement, dans cette démarche, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas été guérie comme ça, bouf, voilà, parce que le Seigneur l'a bien voulu. Il y a eu une démarche de sa part. Elle a saisi, elle aussi, la guérison divine, verset 27. Il nous a dit dans ce passage, elle toucha le bord de son vêtement. Elle est allée, elle est sortie. Elle a pris ses affaires, elle s'est habillée, elle savait que Jésus allait passer dans le village. Et puis là, elle s'est habillée, elle a tout fait pour qu'elle puisse sortir. Mais en sortant, elle prenait un risque, parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle était impure. Alors, en étant impure, à cette époque, eh bien, elle avait droit à la lapidation. C'est-à-dire qu'il y a eu une démarche de foi de sa part. Pas facile de s'engager, mais Dieu te demandera cette démarche de foi. Dieu va te demander ce matin de saisir la guérison par la foi. Ça va être une lutte dans ton cœur. Ça va être peut-être un combat. Il va y avoir toutes sortes de doutes qui vont s'en mêler avec la foi dans ton cœur. Il va y avoir une lutte. Parce que c'est un combat spirituel, la guérison divine. Parce que c'est un miracle de Dieu. Alors cette femme, elle est sortie. Elle y est allée, sachant très bien qu'elle aurait pu être condamnée, lapidée par les religieux. Et la parole de Dieu nous dit, à ce verset 27, je répète, elle toucha le bord de son vêtement. C'est-à-dire qu'il y a eu une démarche de foi. Elle a fait une démarche de foi. Elle a saisi, elle est allée au devant, elle a pris le bord du vêtement de Jésus. Il y avait plein de monde autour, mais elle a saisi la grâce de Dieu. Et puis, Au verset 28, oh, c'est incroyable. Elle dit ceci, je serai guéri. Je serai guéri. C'est-à-dire que là, il y a une déclaration de foi. Au départ, il y a eu une démarche, et là, il y a une déclaration. Au départ, il y a eu un acte de foi pour y aller, mais après, elle a déclaré de sa bouche. Ce que tu déclares de ta bouche, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est déjà révélateur de, ce que, de l'attitude, du comportement et de l'approche que tu as avec le Seigneur Jésus. Et cette femme, elle était sûre dans son cœur. Elle a pris cette parole de Dieu, je dirais, à la lettre. Elle a pris Dieu au mot. Alléluia. Et elle a saisi la foi. Je serai guéri. Une affirmation. Et puis elle est allée plus loin. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps. Et vous savez, dans ce texte, quand vous lisez bien cette partie de ce texte, la parole de Dieu nous dit que quand cette femme a touché le bord du vêtement, Jésus s'est arrêté, elle dit « Qui m'a touché ?» Il y a des milliers de gens autour. Plein de personnes qui l'approchaient, le touchaient Jésus sur l'épaule, sur la tête, étaient là sur les bras. « Jésus, tu es le Fils de Dieu, alléluia !» Plein de gens étaient là, ils étaient contents, ils étaient heureux de voir ce Jésus, ce Messie passer. Mais là, devant ces milliers de mains, il y avait une main qui avait une autre attitude. Une main qui saisissait par la foi le miracle. Comprenez bien que Jésus peut passer au milieu de nous, mais ça sera en fonction de ton attitude, de ton comportement, de ta position, que les choses vont changer. Et dans cette foule, il y a une seule personne qui a été guérie, c'est cette personne qui avait une position où elle a saisi la guérison. Et la guérison, elle était pour elle. Et je voudrais vous dire une chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la guérison, elle est pour vous ce matin. Elle est pour toi ce matin. Elle est pour ta vie ce matin. Elle est là pour toi personnellement. Alors, à toi de saisir la guérison divine. Et puis, j'ai un troisième personnage. On peut le lire peut-être dans Marc chapitre 8, au verset 22. Alors, ce personnage, c'est un aveugle. Verset 22, il est dit ceci. Jésus guérit cet aveugle. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes et j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre plus au village. » Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus voudra avoir une relation personnelle avec toi. Ce matin, Jésus veut une relation personnelle avec toi. Il veut parler avec toi. Il a quelque chose à te dire à toi personnellement. Si c'est vrai que Jésus est capable de guérir tout le monde, il y a une chose qu'il veut faire, c'est de te prendre à part. De parler avec toi, toi avec lui. D'avoir cet échange avec lui ce matin. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme qui était là, aveugle. Et il a pris à part, et verset 23, lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et au verset 24, quelque chose de surprenant se passe. Et il dit, j'aperçois des hommes comme des arbres. Là, je suis surpris quand même. Pourquoi Jésus n'a pas pu guérir complètement l'aveugle? Pourquoi alors que Jésus est capable de guérir quelqu'un à distance, capable d'imposer les mains à la personne instantanément, elle est guérie, elle est restaurée, elle est sauvée, vous avez la totale avec le Seigneur Jésus. Là, il vient, il met de la salive sur les yeux et le miracle n'est pas complet. Il n'y a pas un total miracle dans sa vie, il n'y a pas, je dirais, une puissance totale dans ses yeux. Pourquoi cela ? Eh bien, on a une réponse au verset 25. Quand l'aveugle regarda fixement, virgule, il fut guéri. Et vit tout distinctement. Dans la version Martin, il nous est dit ceci, Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et lui commanda de regarder. C'est-à-dire que la première fois, il avait les yeux fermés, il était là aveugle, il a mis de la salive, mais il n'osait pas ouvrir. Il était là dans une attente, on ne sait pas trop laquelle. Il était là hésitant et cherchant peut-être à essayer de se sortir de cette affaire. Et puis il ouvre les yeux, mais c'était imparfait parce qu'il n'avait pas un acte de foi. Alors Jésus, il est reparti de plus belle. Il a repris de la salive, il l'a mis sur les yeux. Et puis après, quand il a fini de prier, il lui a dit, écoute, maintenant, il faut que tu regardes, que tu prennes une position ferme. au moment où il prit la décision de regarder Jésus le guérir à partir de là. Jésus a commencé à faire ce miracle quand il a saisi, lui, l'aveugle, quand il a saisi la guérison personnellement. Écoutez-moi bien. Jésus, ce qu'il va te demander de faire ce matin, parce qu'on va prier pour ça, ce qu'il va te demander de faire, c'est de saisir la guérison, de prendre les taureaux par les cornes, comme on dit, si vulgairement. C'est de prendre l'évangile par les cornes. C'est de prendre la parole de Dieu au mot. C'est de saisir le miraculeux de Dieu. Et cet homme, la deuxième fois, Jésus l'a recommandé, l'a dit, vas-y maintenant. Hein, il commanda de regarder et il fut rétabli. Et les yeux étaient là complètement restaurés dans sa vie. À toi de saisir la tienne. Cette guérison qui t'est promue par le Seigneur, qui t'est promise par notre Seigneur, parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Pas évident, c'est vrai. C'est vrai que vous étiez là et peut-être que cet homme aveugle, il était hésitant, il n'osait pas, il ne savait pas trop quoi faire. Mais à un moment donné, le Seigneur nous montre qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il y a un combat spirituel, il y a peut-être le doute qui va passer dans ta vie. Peut-être le doute qui va rentrer dans ton esprit. Mais le Seigneur voudra te dire ce matin que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Jean déclare ceci dans Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alléluia, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, alléluia. Il a fait des centaines, des milliers de miracles. Et c'est pour cela qu'il est dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu veux saisir le miracle de Dieu? Est-ce que tu veux, ce matin, vraiment, saisir la grâce de Dieu dans ta vie, dans ton cœur? Vous savez, j'ai rencontré une personne dans l'église, dans une des églises où j'ai exercé le ministère, qui a eu 7 cancers, les uns derrière les autres. 7 cancers. Et c'est sorti de ces 7 cancers. Alors, vous savez, il y a des moments où le Seigneur va nous reprendre parce que c'est sa volonté. Et à d'autres moments, le Seigneur veut faire grâce parce que c'est aussi sa volonté. Et parce que je crois que le Seigneur est capable de faire des miracles extraordinaires. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. On va se laisser conduire par le Seigneur ce matin.